coup d'amour, un coup, je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle.
Je ne pourrais jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas.
Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde, sa douceur et sa beauté.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots. Mais
je t'aime. 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 Le plus fort que je peux.
Je t'aime.
Et je fais de mon mieux.
Bonsoir tout le monde. Alors bienvenue dans cette nouvelle émission de 50 nuances d'amour. J'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, on avait Eline et Heidi Mann qui sont venues nous présenter une chanson qui s'appelle Flammes jumelles. C'était une belle émission de partage, d'échange, de découverte. Voilà, donc c'est à la base le principe de cette émission, de pouvoir venir parler de la relation amoureuse, soit par rapport à sa propre expérience, soit par rapport à, en l'occurrence, comme la semaine dernière, une création artistique autour de ce thème de l'amour. Donc, vous êtes les bienvenus sur cette émission, elle est là pour vous, pour que vous puissiez vous exprimer sur le sujet. Je vous donne le numéro de téléphone si vous souhaitiez intervenir pendant l'émission ou potentiellement si vous souhaitiez me contacter pour venir échanger avec moi au cours d'une future émission. Le numéro de téléphone, c'est le 06 15 94 36 51. Voilà. Cette semaine, j'ai personne en face de moi pour discourir sur l'amour. Alors, comme d'habitude, dans ces cas-là, je vous ai préparé des petites capsules sur la relation amoureuse, sur des sujets en lien avec ça. On va partir sur une capsule qui va vous parler des troubles de l'attachement. J'ai pris ça sur une émission sur Arte, en l'occurrence. Donc j'ai fait une petite coupure, hein. ça dure, je ne sais plus, quelques minutes. Mais voilà, ce n'est pas toute l'émission en entier, mais c'est forcément extrêmement intéressant de s'interroger à la manière dont on est en capacité de, entre guillemets, s'attacher à l'autre, c'est-à-dire accepter d'être en relation et à quel niveau d'intimité, jusqu'où on peut aller dans l'intimité avec l'autre, notamment en fonction potentiellement de ce qu'on a reçu ou pas reçu pendant l'enfance, mais ça vous commencez à connaître le topo là-dessus. Mais voilà, donc on va ensemble grandir et évoluer et monter en conscience sur ce sujet des difficultés et ce qu'on appelle les troubles de l'attachement. Peut-être que vous vous reconnaîtrez ou peut-être que vous reconnaîtrez des personnes que vous connaissez et ça vous permettra d'avoir une grille de lecture, une grille de compréhension de cette personne ou de vous-même au travers de cette petite capsule. Donc bah, écoutez, je vous dis belle écoute et on se retrouve après.
Passe des super moments.
Okay. Mais récemment, j'ai eu des angoisses liées à un sentiment de perte.
Que ça partait pas.
Ce qui change.
À tout à l'heure.
Je suis amoureuse en ce moment. Je sors avec Lucas. Depuis juillet de l'année dernière environ. Je me sens très bien pour l'instant avec lui. Mais récemment, j'ai eu des angoisses liées à un sentiment de perte. Ce qui change, c'est que c'est plus moi qui décide. Ça peut être aussi Lucas. Alors que depuis le début, j'étais sûre que c'était moi qui choisissais le degré de proximité ou de distance entre nous.
On est devenus très proches, vraiment très vite. On rencontre quelqu'un, on passe des super moments ensemble. Quand on est très amoureux, on ne se rend pas compte que l'autre a des difficultés à s'attacher. Mais à un moment, j'ai remarqué que Juliette prenait vraiment ses distances avec moi, pendant un, deux ou trois jours. Il y avait une tension dans l'air. J'ai fini par m'apercevoir qu'elle se fermait comme une huître, qu'elle s'éloignait de moi. Ça m'a rendu très triste. Peut-être parce que j'avais déjà vécu ça.
Tomber amoureuse, puis prendre le large très vite, tomber de nouveau amoureuse de quelqu'un d'autre et se sauver encore une fois. Ça venait de moi. Je voulais pas m'engager. Je sortais avec quelqu'un 6 mois, puis je passais à autre chose. Ça me rendait triste, ce comportement que j'avais. Je voyais bien que j'étais dure, froide, indifférente aux sentiments de l'autre.
La peur de s'attacher est un phénomène qui se manifeste quand il y a un déséquilibre entre le besoin de proximité et le besoin d'autonomie. En général, on accorde trop d'importance à son autonomie. On a peur de s'attacher et on fuit. On fuit la relation. On peut estimer que 50% de la population a un attachement sécure. L'autre moitié se divise entre des personnes qui ont un trop grand besoin d'autonomie, avec des capacités de rapprochement limitées, et des personnes qui ont tendance à coller l'autre, qui recherchent une trop grande proximité et qui ont du mal à être autonomes. Ces difficultés d'attachement ont sans doute toujours existé. Si on en prend davantage conscience ces dernières années ou ces dernières décennies, c'est parce qu'on a davantage envie de relations saines. Les femmes en particulier n'acceptent plus d'avoir une vie de couple malheureuse. Elles sont nombreuses à désirer un attachement et une relation profonde. Dans un couple, il faut que chacun soit capable de se prendre en charge personnellement, d'avoir une relation saine à soi-même et d'être satisfait de soi en dehors de l'autre. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment nouer une relation. Autrement dit, qu'on soit pot de colle ou au contraire fuyant, on doit apprendre à se faire du bien à soi-même.
L'attachement, c'est du berceau jusqu'au tombeau. Voilà, ça nous suit en fait toute notre vie. Le type de modèle qu'on va créer quand on est petit, normalement, va rester le même tout au long de notre vie. Il peut être modifié si on a en fait des adversités de vie qui peuvent en fait modifier un petit peu notre style d'attachement.
La pathologie du lien d'attachement m'a permis sûrement de ne pas développer d'autres troubles. C'est dur à dire, je suis quelqu'un de polytraumatisé et j'aurais pu être psychotique. J'ai une cellule familiale, je dirais mon petit clan que j'arrive à faire, mais c'est mon petit cocon. Mais après, j'ai toujours du mal, d'une certaine manière, à avoir des amis, alors que, paradoxalement, par exemple, au travail, dans les fonctions que j'occupe, j'ai beaucoup de liens avec des personnes, mais parce que ce lien, il est sécurisé par le fait que ce soit le travail qui me donne cette légitimité. C'est pas du tout la même chose.
Ça m'a plus frappé, là, quand il a eu 40 ans. où là, je me suis vraiment demandé qui je pouvais inviter pour lui faire vraiment plaisir. Et en fait, j'ai pas réussi. C'est important, ce lien. Même s'il se fait pas avec d'autres, eh bien, nous, quand on a réussi à le créer, c'est forcément exceptionnel. Voilà. Donc, c'est vital, je pense. Et malheureusement, il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à créer ce lien et sont sans doute plus là.
Les personnes qui ont peur de s'attacher à l'âge adulte ont souvent associé la proximité avec des attentes dans l'enfance. Et elles se sentent mal quand elles révèlent leur monde intérieur de manière authentique.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour Julie ? C'est l'anniversaire de Julie. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Papa et maman ? Ah, tu veux la grande sœur ?
À l'heure actuelle, il y a très peu d'outils pour mesurer l'attachement et la qualité de l'attachement. C'est-à-dire que moi, en tant que chercheur, pour évaluer le type d'attachement d'un enfant, j'ai déjà une session de jeu qui dure un petit quart d'heure, où je raconte 5 histoires et l'enfant termine l'histoire avec, ou continue l'histoire avec moi, avec des petits Playmobil qui manipulent.
C'était quoi l'histoire d'après ? Est-ce qu'on en fait une autre d'après ?
Oui.
Ouais ? On fait une autre histoire, alors on la continue ? Et alors, c'est toi qui en fais une autre avec tout ce que tu veux ?
Oui.
On fait quoi alors ? On prend quoi ? Ça, t'aimais bien ?
Allez, moi, je vais dormir dans mon lit.
Yes !
Et quand je regarde cette histoire, j'ai 69 cartes que je vais trier pour essayer de déterminer le style d'attachement de l'enfant à partir de cette échelle très différente, et je refais ce classement à 3 reprises. Donc pour dire que déterminer un style d'attachement, c'est long, ça prend du temps, et c'est pas si simple que ça, même si on peut lire des choses. Si vous avez ça, c'est que vous avez tel type d'attachement. Non, ça, ce n'est pas possible. Ceux qui écrivent ça, ils disent n'importe quoi.
Oh, elle fait tomber maman et papa.
La peur de s'attacher, c'est pas vraiment une maladie qu'on pourrait diagnostiquer. On peut partir du principe que la question de l'attachement nous concerne tous à divers degrés. Et c'est pas grave, tant que ça reste limité. Personne n'a eu une enfance parfaite. Puis à l'adolescence et au début de l'âge adulte, on peut faire des expériences qui vont influencer notre manière de nous attacher.
Quand j'avais 11 ou 12 ans, j'allais assez mal. Les autres enfants de la classe n'étaient pas très sympas avec moi. Le harcèlement, c'est quand on te démolit en permanence, quand on te renvoie sans cesse que t'es pas cool, que tu vaux rien, que tu fais pas partie du groupe, que t'es bizarre. Alors je me suis renfermé et j'ai passé mes journées sur les jeux vidéo. Je souffre d'une angoisse de perte. Ça veut dire que je pète un câble quand quelqu'un me quitte. Je le ressens ici. C'est comme si j'allais mourir. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais pas désirable. C'est directement lié aux difficultés que j'éprouve en couple. Quand on s'apprécie pas soi-même, on a besoin qu'un autre vous trouve bien. Pour s'aimer quand même. J'ai été trompé par des amis et des compagnes, des compagnons. Mais finalement, bah oui, ça m'a permis de comprendre que j'avais un problème.
La peur de s'attacher est un problème à prendre très au sérieux, parce qu'elle est souvent la cause d'un décalage et d'une difficulté dans les couples, et qu'elle peut conduire à la rupture, ou du moins causer beaucoup de souffrance.
Le besoin d'attachement serait un besoin en fait primordial pour l'enfant. On aurait deux systèmes qui marchent en équilibre, un système qui serait du côté de la sécurité et un autre qui serait du côté de l'exploration, et ces deux systèmes ont le même poids. Quand il y a un stress, en fait, ce qui va se passer, c'est que le système d'attachement, il va être activé, voilà, et donc l'enfant va rechercher de la sécurité, et donc il va inhiber son pôle de l'exploration, et donc il ne va plus pouvoir aller vers les autres. Et pour pouvoir aller vers les autres, il faut que la personne qui lui donne des soins puisse en fait le réconforter assez pour faire diminuer en fait le niveau de stress qui est inconfortable. J'ai des besoins et le caregiver va y répondre. En fonction de ces choses-là, l'enfant, il va, on va dire, nous on appelle ça intérioriser, et en fait ça va lui donner un modèle, ce qu'on appelle un modèle interne opérant, des relations qu'il peut avoir aussi et qui va étendre, donc d'abord avec son caregiver, qui va pouvoir étendre avec les relations des autres.
Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Après, ça a été l'histoire classique. J'allais chez mon père tous les 15 jours, il s'est trouvé une copine. Ma mère s'est trouvé un copain qu'elle a fini par épouser. J'ai compris que j'avais pas envie de la même vie de couple que ma mère, avec la violence domestique. À plusieurs reprises. Mais elle pouvait pas le quitter. Se séparer de lui, faire sa vie toute seule. Elle était aussi dépendante financièrement. Ma maman est quelqu'un de très gentil. Mais je crois qu'elle était tellement étouffée par cet homme et que pour elle, c'était difficile. Elle avait du mal à donner de l'amour alors qu'elle n'en recevait pas.
La question de l'attachement, pour moi, effectivement, c'est en lien avec les premières années de ma vie. J'ai été très tôt victime de violences physiques par mon père. J'avais un père qui était très très violent. Très tôt, finalement, j'ai eu un peu du mal à avoir confiance déjà en l'adulte et puis à avoir forcément une forme d'insécurité aussi au niveau du lien avec mon environnement. Ça s'est amplifié en fin de compte puisque à l'âge de 8 ans, j'ai été victime d'un viol par un prêtre missionnaire qui était également un grand-oncle. La pathologie du lien d'attachement, c'est comme si c'était venu un peu me protéger finalement en quelque sorte d'un environnement qui était hyper violent et finalement ça a été comme une clé en fait, une forme d'échappatoire.
En fonction des réactions qu'on a avec nos parents, on intériorise en fait leurs réactions. Du coup tous les enfants n'ont pas les mêmes modèles et du coup n'ont pas les mêmes indices pour décrypter ce que signifient en fait les informations des autres. Voilà. Donc les enfants insécures vont être plus dans la difficulté pour comprendre en fait les autres et du coup ils vont être plus dans l'hypervigilance au cas où la personne ne répondrait pas à ses besoins ou n'y répondrait pas bien.
C'est bien ce que me disent les psys, c'est que je suis dans cette hypervigilance-là, dans les liens et dans une forme d'interprétation des choses, parce qu'en fait, je cherche à me protéger au maximum.
Je vois bien qu'Arnaud n'a pas eu... tout ce dont on a besoin pour justement... créer des liens avec les autres et s'attacher ou être attaché à sa propre famille.
Il y a ceux pour lesquels, en fait, le caregiver, le donneur de soins, dès que l'enfant va exprimer un besoin, le caregiver, il ne va pas y répondre. Voilà. Ou alors, il va y répondre des fois et pas tout le temps. Ou alors, pour les désorganiser, il va répondre de manière brutale, incohérente. Donc en fait, ces enfants désorganisés, ils fluctuent dans les deux types d'attachements insécures. Des fois, ils vont suractiver leur demande de besoin, ou des fois, en fait, ils vont rien dire. Parce que s'ils disent rien, au moins, ils n'auront pas de problème.
Et d'ailleurs, quand il m'a raconté ce qui lui était arrivé, il avait peur que je le quitte. Direct, comme ça. Et moi, j'ai pas compris. Je lui avais dit, mais... pourquoi ? Enfin, pourquoi t'as peur de ça ? Je comprends pas.
Je pense qu'il y a une forme de culpabilité, d'une certaine manière, pour un conjoint, même à certains moments, de se dire... dire, par exemple, j'en ai marre, et que c'est compliqué, c'est difficile de le dire, parce que ça voudrait dire que c'est comme si on renvoyait à l'autre « j'en ai marre du traumatisme que t'as vécu ».
On s'est vu le lendemain et je lui ai tout dit. Que j'avais des problèmes à m'attacher, que j'avais eu beaucoup d'histoires d'amour très courtes dans ma vie. Et que je commençais à avoir peur qu'il me quitte. Et à sentir que c'était pas moi qui décidais tout.
Elle m'a dit qu'elle sentait en elle des choses qu'elle connaissait et d'autres qu'elle connaissait pas, et que c'était lié à la question de l'attachement. Qu'elle prenait conscience qu'elle était en train de s'attacher et que ça lui faisait peur. Le fait qu'elle m'ait tout expliqué, ça a fait une énorme différence. Je n'avais encore jamais entendu quelqu'un nommer comme ça ses blessures d'enfant et en parler aussi ouvertement.
La personne fuyante a souvent l'impression que les attentes de l'autre l'étouffent, que l'autre l'accapare. Parfois, l'autre personne a effectivement des attentes qui génèrent une pression. Mais souvent, ces attentes sont purement imaginaires. Elles n'existent pas vraiment. La personne fuyante suit un schéma qui vient de son enfance, en mode automatique. On peut assez bien traiter la peur de s'attacher. D'abord, il faut regarder d'où ça vient. D'où vient cette impulsion à me retirer de la relation ou à coller l'autre tout de suite? Pour arrêter ce cycle, il faut prendre du recul et réfléchir sur soi-même, sur son comportement. Il faut arrêter de suivre ses impulsions et se demander pourquoi on agit de la sorte. Est-ce que ma réponse est adaptée? Est-ce que le stimulus est réel? Il faut s'interroger. Est-ce que l'autre voulait vraiment dire ça, ou c'est seulement mon interprétation?
Oui, ça change ma vie parce que ça me donne une autre force. Y compris dans les relations de couple. Je vois qu'une histoire peut durer, et je trouve ça bien, je crois. En tout cas, c'est nouveau. C'est excitant, c'est beau. On se découvre soi-même. En septembre, Lucas repart 3 mois en Espagne. Il y a un mois, il m'a demandé si je voulais l'accompagner. J'ai dit « oui, ça va être super ». C'est vraiment une grande étape pour moi de dire « d'accord, on part ensemble, en voyage, 3 mois, en Espagne. On vivra l'un sur l'autre dans la camionnette ou alors on se prendra un appartement ».
Dans 10 ans, je me vois bien en couple. Et avec la même personne qu'aujourd'hui, j'espère. Quand je tombe amoureux, je mets l'autre sur un piédestal. Et ce piédestal est inatteignable. Je me fais tout petit. J'essaie d'avoir la main mise sur ce que l'autre pense de moi. Mais ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas influencer la réalité de l'autre. Je me rends invisible.
Ce qui est très important dans un couple où l'un des deux a des problèmes d'attachement, c'est que celui qui est pot de colle comprenne que son comportement contribue au problème. C'est pas facile de déclencher cette prise de conscience, parce que ça signifie implicitement que la personne a une responsabilité dans la manière dont la relation fonctionne. C'est difficile à admettre quand on se perçoit comme une victime, comme celui qui souffre.
Voilà. Voilà, mais j'espère que vous aurez appris des choses ou reconnu des choses qui vous parleront de vous, d'autres personnes autour de vous, pour vous aider à mieux vous cerner vous-même ou à mieux comprendre l'autre. Effectivement, dans les troubles de l'attachement, soit, comme ils disent, à la fin, on est pot de colle, soit on est fuyant. Et l'enjeu, c'est effectivement de trouver un juste équilibre, une posture juste, qui fait qu'on peut passer des moments intimes avec l'autre. Quand je dis intime, c'est pas, on parle pas de sexualité. L'intimité avec l'autre, c'est être en capacité de se montrer tel qu'on est dans différents moments de la vie. Donc être dans une intimité, une proximité avec l'autre. Et en même temps, garder une capacité à être autonome et avoir des moments de ressourcement seul, et notamment au travers des moments de solitude qui sont importants de savoir choyer et accepter. Voilà. Et généralement, pour en arriver là, si on a eu justement une enfance qui était assez insécure et qui nous a mis dans ces postures, soit de fuyant, soit de pot de colle, eh ben, faut en passer par la thérapie. Voilà. C'est un petit peu difficile de faire ce chemin seul, sans être accompagné pour que la personne qui nous accompagne puisse nous montrer nos défaillances, nos difficultés, nos angles morts, puisse nous aider à nous remettre en question avec bienveillance et douceur. Voilà, ça c'est difficile de le faire seul. Donc voilà, je trouve que c'était un extrait fort intéressant et qui touche forcément toutes les relations, donc amicales, professionnelles, etc. Mais en gros, et entre autres choses, la relation amoureuse. Voilà pourquoi elle était là présente ce soir dans cette émission. Je vous propose, on se fait une pause comme d'habitude, humour, hein, pour faire une belle petite coupure et on se retrouve après avec un autre extrait sur un autre sujet.
Les Spice Girls, sans déconner. Voilà, je suis content d'être là. Elle m'a invité à son gala, mais tu sais, Thaïs, elle, ouais, après on va boire des verres, on va se bourrer la gueule. Je dis, ah, putain, c'est bon, j'ai plus l'âge de ça. Moi. C'est fini. Avant, j'ai 47 ans, je sais pas s'il y a des vieux ce soir. Des... Non, mais il y a madame là, toi t'es. Non, mais profite, c'est sûrement ton dernier spectacle. C'est pas méchant, mais tu vois, j'ai. Ah, mais avant, je me battais sur scène en me disant, non, je suis pas vieux, mais maintenant j'assume. Genre, pff, je laisse faire la nature, ça part en live, c'est propre. Tu sais, j'ai 47 ans, je contrôle plus mon corps. Je contrôle. Avant, quand je rotais, tu sais, je rotais comme les gamins de 15 ans, j'étais là, je fais. Tu sais, je maîtrisais. Maintenant, je rote comme les vieux au McDo, je fais. Tiens ou pas. Tu vois ce rot qui vient de. Et en plein milieu d'une phrase, ça va, t'en. Tu sais, j'ai des grains de beauté, ils changent de place, de couleur, c'est des dragibus. Je me fais mal en dormant, mon ronflement me réveille. Je suis comme ça, je. Qui est là? Qui a parlé là? T'es, dès que je fais un mouvement, je le commente. Je me baisse et je me relève. Putain de merde. Par contre, il y a un truc qui est bien. C'est pas pour faire nous les mecs et vous les filles, mais nous les mecs, quand on vieillit, on devient beau. Ah non, mais c'est pas votre faute, mesdames, c'est à cause de la gravité. Il y a un affaissement. Comment vous dire ça? Et là, ça pend. Non, ce que je voulais dire. Elle n'entend pas. Non, ou alors elle s'en souvient déjà plus. Non, ce que je veux dire, tu sais, c'est une blague. Je fais une blague en disant que nous, les mecs, on devait... Mais j'ai joué en France, il n'y a pas longtemps, dans le sud de la France, comme ça, et il y avait une fille qui est autour, à votre place, madame. Premier rang, elle ne pouvait pas m'encadrer. Dès que je faisais une blague, elle faisait pfff, comme ça, tu vois ou pas? Et je fais ce truc, je fais, ah, nous, les mecs, on devient beau en vieillissant. Elle se lève dans tout le monde, elle fait, pourquoi? Ça, c'est beau! Elle fait comme ça devant moi, en me montrant moi. Alors j'ai pris du recul et je tiens à vous dire ce soir que ça c'est beau. Parce que moi je pars de loin. Moi quand j'étais petit je ressemblais à Bachar al-Assad adulte. Ma mère m'a jamais dit t'es mignon, elle fait sois gentil avec les gens, c'est important. Par contre les plus jeunes, quand vous vieillissez, bossez le cardio, le cœur, le cardio, l'endurance. Ah, putain moi le cardio, je suis essoufflé vite, quand je fais l'amour je fais une pause. C'est trop long, je mets sur le dos comme ça, ma copine s'inquiète, elle fait « Ça va Mathieu ?» Je suis obligé de trouver un truc, écoute, c'est tellement fort ce qu'on vit, je prends du recul. Mais si elle allume la lumière, elle verra ça. Mais... Je fais pas ça, mais mes parents, tu sais, j'étais chez mes parents, là, en vacances. Mais mes parents, c'est pire, je vais finir comme eux. Ils ont 75 ans, tu vois. Mon père, dans quel état il est? Non seulement il se parle tout seul, mais il se répond tout seul. Il fait quel temps? Il fait beau, je vais mettre un pull. À qui tu parles, là? Tu vois, il fait partie de ces vieux, tu sais, il s'endort n'importe où, à n'importe quelle heure, avec sa tête, on dirait qu'il va mourir. Il est comme ça, et d'un coup... Toi, t'es là, tu dors. Non, je dors pas. Si, tu dors. Non, je dors pas. Papa, laisse-moi le volant. Vous savez... Mais tu sais, c'est un kéké du Sud. Tu vois, ce genre de kéké. T'sais, il fait moins 12, il est toujours en style blanc, il parle fort, il est comme ça. T'sais. Il mange fort. T'sais. Il mange quand c'est trop chaud, il aère. Il fait... Tu sais, les vieux, ils ont ça, une espèce de climatisation interne. Et quand c'est trop chaud... T'sais, il est là avec son t-shirt, il cherche dans son nombril des trucs. Les vieux font ça. Les vieux s'emmerdent, ils cherchent, ils creusent comme ça. Mon père est là, il fait « Oh putain, un capre !» Vous savez, il y a pire que les parents qui sont largués par la technologie. Il y a les parents qui veulent ne pas être largués par la technologie. Histoire vraie, ma maman, ma mère, elle a un compte Instagram. Je suis son seul abonné. Alors ne tapez pas Jacqueline Madénian sur Instagram parce qu'elle a mis un pseudo. Parce qu'elle veut pas qu'on la retrouve. Qui te cherche? Qui te cherche? Je vous donnerai après, vous allez taper son vrai nom, elle sera là, oh, ça y est, j'ai des followers, je suis influenceuse de bégonia à Perpignan. Et là, j'étais chez eux, tu sais, il y a 15 jours, je vois ma mère sur Instagram, je me suis dit, il va se passer un truc marrant, parce que j'ai une famille marrante, bingo. Donc ma mère, elle fait, adieu, j'ai envie de faire une story. Je dis, maman, il y a que moi qui te suis, dis-moi directement qu'est-ce qui se passe dans ta vie, là. Là, je vais faire une story. Et je lui dis, comment on fait les stories? Tu fais une vidéo et t'envoies. J'ai reçu les essais. J'ai reçu ça. Allô, Mathieu, tu m'entends? Allô, allô, tu m'entends? Allô. Je me suis foutu de sa gueule. Elle m'a bloqué. Et elle continue à publier. Sa famille n'a aucun putain de sens. Mais là, ils sont heureux, mes parents, parce que c'est devenu des grands-parents. J'ai eu un bébé. Il a 4 mois. Parole d'honneur. Voilà. Ça a l'air de... Ouais, non, mais... Non, mais applaudissez pas. C'était facile, honnêtement. Ça, j'ai 47 ans, j'avais pas avoir un gosse à 70 ans, t'imagines? T'as un gosse à 70 ans, tu m'imagines comme ça avec mon gosse et ma femme grave? Oh, qui c'est qui a fait caca? C'est moi, ça pas ou quoi? Dès que je me suis endormi comme ça, mon fils, papa, papa, je suis pas mort, je fais la sieste, calme-toi, calme-toi. Tu sais que je savais même pas si je pouvais encore avoir des gosses. Je savais pas dans quel état étaient mes spermatozoïdes, parce que vous savez qu'on vit une véritable crise spermatique. Vous êtes au courant de ça ou pas? Les gens sont là, c'est plus marrant du tout là. Parce qu'à cause de la pollution et des pesticides, il y a de plus en plus de mecs stériles. Et moi, je pense à ça parce que j'ai toujours mon téléphone portable dans la poche. C'est-à-dire que toute la journée, mes spermatozoïdes à moi, ils prennent des ondes dans la gueule. Mon Dieu, dans quel état ils doivent être? Le départ de la course. Ça a dû être un truc handisport, il part comme ça. Le seul valide, il devait être débile sur son portable, paumé. Alors, on est où là? Ouais. Les cheveux, qu'est-ce qu'on fout dans les cheveux? Voilà, celle-là est pour le public le plus jeune. Moi, ouais, je suis assez familial. Et là, vous m'avez applaudi parce que j'ai eu un gosse. Mais là, il va falloir que je l'élève, ce gamin. Moi, je sais pas comment ça marche, ce truc-là. Non, mais sérieux, quand il est né, j'étais là à la naissance. On me l'a mis direct sur moi avec le câble. Mais qu'est-ce que tu veux que... Mais comment je vais élever ça, moi? Et à la fois, je le tenais dans mes bras, ma soeur m'a fait « Tu ferais un bon père. » Ah, parce que je tiens à l'endroit, c'est ça, le test? C'est quoi la deuxième épreuve? Où sont les yeux? Bah, c'est les deux trous, là, voilà, t'as qu'à voir. Tu sais, j'étais chez mon pote Denis à Marseille, il y a pas longtemps, comme ça, il y a un gamin qui a 8 ans, le gamin, il tape dans un ballon, et Denis lui dit, tu seras attaquant à l'Olympique de Marseille. Il lui a donné la confiance. Et moi, je sais pas si je pourrais faire ça à mon fils, parce que moi, j'ai pas été élevé dans la confiance. Moi, j'ai été élevé à l'arménienne, très terrible. Il y a des arméniens ce soir? Enfin, des survivants, il y en a ou pas? Non, donc il doit y avoir beaucoup de Turcs. Elle est bien celle-là. Ils sont d'accord. Moi, j'ai été élevé terre à terre. Quand j'étais petit, mon rêve, je voulais être pilote de chasse, comme dans Top Gun. Je vois mon père, papa, je vais être pilote de chasse. Mon père, il fait, tu peux pas, t'as une cicatrice. Et avec la vitesse, ça va s'ouvrir. Voilà, fin du rêve. Tu seras policier municipal à Perpignan. Je connais le maire. Policier municipal, ferme ta gueule maintenant. Tu sais, moi, l'éducation positive, je trouve ça cool, mais j'ai pas été élevé éducation positive. Là, ce qui me saoule, c'est les parents 20 sur 20. Vous voyez, ces parents 20 sur 20 qui veulent avoir des enfants 20 sur 20. On est des gens médiocres, on aura des enfants médiocres. Voilà. Mes parents, c'était des parents 10 sur 20. Ma mère avait 20, mon père 0. Voilà, fin d'histoire. Mon père me laissait jouer avec la prise, ma mère appelait le SAMU, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Moi, j'ai eu la fessée, par exemple, tu vois. Mais qui a eu la fessée par applaudissement ici? Ben voilà, on a, voilà. Mais moi, mon père, il mettait de l'enjeu dans la fessée. Il me disait, tu vas prendre nous dans la gueule la journée, je te dis pas qu'en profite, suspense. Je marchais dans la maison, je prenais un coup dans l'oreille, j'avais un acouphène pendant 6 mois. Bip! Les gosses, maintenant, ils grandissent plus avec le danger, tu vois. La fois, je suis allé au centre aéré chercher mon petit neveu. Il a 8 ans, il s'est mis derrière, il a mis la ceinture. À 8 ans! Moi, mon père me mettait devant avec des annuaires pour que je voie la mort arriver avec lui. D'ailleurs, je vais m'adresser à tous les gens de plus de 45 ans ce soir. Écoutez-moi bien, on est des Jedi. On est des survivants. On avait de l'amiante sur la tête, du mercure dans les dents, deux rôtes à la télé, on est encore en vie, bordel de merde. Bien sûr, vous pouvez vous applaudir. T'as vu la génération qui arrive? T'as vu la génération? Hein, on dirait des saumons d'élevage surprotégés. Ils sont comme ça, il y en a un qui tombe par terre. Oh, il est tombé par terre, j'étais une croûte ambulante, moi, de quoi tu parles? Mon neveu, il fait du vélo avec un casque. Nous, les gamins, avec les casques, on les finissait à coups de cailloux, je lui dis à ma sœur. Hein. S'il n'est pas capable de faire du vélo sans s'ouvrir la tête, c'est qu'il n'est pas fait pour vivre dans notre monde. Laisse faire la nature. Il tombe caniveau, océan Atlantique, on n'en parle plus. Leur jardin d'enfants, vous avez vu leur putain de jardin d'enfants? T'es le sol est mou, tout est à bois arrondi. Tu te rappelles nos jardins d'enfants à nous? C'était des barres de fer chauffables au soleil. Tu mettais la main, les toboggans étaient à 6 mètres à l'air, tu retombais en arrière, tu finissais paraplégique à 3 ans et demi. Le tourniquet, vous vous rappelez du tourniquet? Dans mon village, c'était un handicapé mental de 25 ans, il faisait tourner comme ça. T'avais des enfants, ils volaient en l'air. Tu retombais dans du sable, t'avais de la merde de chien. Et ta mère, pour t'essuyer, elle faisait pouf, voilà comment ça fonctionnait. Mais là, on veut les protéger. On veut pas qu'ils aient mal, même psychologiquement. On veut pas qu'ils aient mal. On a enlevé les notes, on a mis des couleurs. Je répète. On a enlevé les notes, on a mis des couleurs. Écoutez-moi, si vous avez des enfants, si ton fils a 3 sur 20 ou bleu, c'est un crétin. Et ça restera un putain de crétin. Et c'est pas grave, il peut pas y avoir que des astronautes. Il faut des policiers municipaux dans la ville de Fairfield. Merci à écouter, vous étiez super sympa. Merci.
Voilà, petite pause, ça fait du bien. Donc si vous voulez réécouter, c'est Mathieu Madénian. C'est les parents, le sketch s'appelle « Les parents d'hier versus les parents d'aujourd'hui ». Voilà, donc on va repartir maintenant dans la dynamique de l'émission avec une thématique très en lien avec la relation amoureuse, c'est la thématique de la séparation. Donc on était en amont sur l'attachement et là on est sur la séparation. Et donc c'est pareil, c'est un extrait d'une émission. Écoutez, enrichissez-vous, nourrissez-vous de ces informations et on se retrouve après.
Je savais que j'allais lui faire très mal, mais je pouvais pas faire autrement. C'était la première personne à me comprendre aussi bien. Jusque-là, ça m'était jamais vraiment arrivé. Il représentait un point d'ancrage hyper important pour moi. Je pouvais me réfugier auprès de lui à tout moment. On rêvait ensemble. On avait des projets de vacances, des projets d'avenir. Je suis quelqu'un qui a assez peur qu'on le quitte, en fait.
Alors, quand on parle de séparation, il me semble important de parler d'attachement. L'attachement se construit dès les premiers instants de la vie, de notre vie, et va être déterminant pour notre façon à être, à entrer en relation avec les autres. la capacité à tolérer une séparation et à pouvoir rester seul se construit véritablement pendant l'enfance.
On a habité ensemble un petit moment jusqu'à ce que j'emménage dans une autre ville pour mes études. On a continué à se voir, mais il n'y avait plus l'énergie qu'on avait avant, quand on vivait encore ensemble. Il y a un gouffre qui s'est creusé peu à peu et qui n'arrêtait pas de s'élargir. On voyait qu'on devenait de plus en plus étrangers l'un à l'autre. L'idée de rompre est venue de manière imperceptible, sous différentes formes.
Quitter une personne peut être tout aussi difficile que d'être soi-même quitté. La séparation fait monter beaucoup d'anxiété en nous. On a peut-être peur d'être seul et peur d'avoir à affronter toute cette étape. Oui, prendre la décision de se séparer, c'est parfois une lourde décision qui entraîne de lourdes conséquences.
Il est entré dans la pièce et j'ai éclaté direct en sanglots. J'arrivais pas à le lui dire. J'ai d'abord dit à quel point il comptait pour moi et ensuite que ça pouvait pas continuer comme ça entre nous. Juste après la rupture, j'avais plus goût à rien. J'ai fait plein de choses pour me changer les idées. J'ai rencontré des tas de gens. J'ai fait beaucoup de nouvelles expériences. On peut dire qu'au début, j'ai complètement refoulé mes émotions. C'est comme si j'avais caché ma peine derrière une porte que j'avais fermée à clé.
Je pense que ce qui est d'abord important dans une séparation, c'est de s'autoriser à vivre son émotion, s'autoriser à vivre son chagrin, s'autoriser à vivre sa tristesse. Hein, parce que quand on refoule son émotion, y a deux possibilités. Soit au bout d'un moment, on explose, ou soit on implose en soi.
Lors d'une séparation, c'est tout l'organisme qui réagit. L'appétit change, on peut avoir des maux de tête, des troubles du sommeil ou du rythme cardiaque, des maux d'estomac, parce que les émotions et les pensées se transmettent toujours au corps.
Moi, dans mon corps, je dirais que la douleur, la souffrance était vraiment localisée au niveau du ventre. En tout cas, c'est toujours ce que j'ai ressenti. Toujours cette boule au ventre en pensant à lui. Le fait d'avoir peut-être pas fait comme il fallait, pas dit ce qu'il fallait, le fait d'être passé à côté, le fait de pas être la bonne personne. Et donc, c'était comme une espèce de boule au ventre d'appréhension.
Les études menées ces dernières années nous disent que la douleur physique qu'on ressent quand on se tord le pied ou qu'on se coince le doigt dans la porte a beaucoup de points communs avec la souffrance qu'on ressent quand quelqu'un qu'on aime n'est plus à nos côtés. Donc, quand on parle de la douleur de la séparation, l'expression est assez juste. Cette douleur est vraiment très proche de la douleur physique qu'on ressent quand on se fait très mal.
Souvent, je pensais à lui, j'avais de la transpiration dans les mains, quoi, comme quand on passe un examen à l'oral ou on doit une audition, on doit rencontrer quelqu'un d'important, et là, ça se manifeste vraiment.
Au moment d'une séparation, il y a de grands changements hormonaux. Juste après la rupture, quand le chagrin d'amour est à son maximum, on note très clairement certains profils hormonaux. Le système de récompense situé dans le cerveau réclame la personne qui est partie. On a un taux très élevé de dopamine, par exemple. À l'inverse, on a une baisse de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. On a aussi un taux très faible de sérotonine, l'hormone du contentement. Tout ça démontre bien qu'on pense à l'autre de manière obsessionnelle pendant cette phase de tristesse et de nostalgie. L'expérience montre qu'à un certain moment du processus de séparation, la personne surmonte nettement mieux la douleur si elle élabore un récit. Autrement dit, si elle trouve du sens à ce qui s'est passé. Quand on s'interroge, pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce qui a causé tout ça? Quelles leçons j'en tire? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Eh bien, on voit émerger une histoire chargée de sens. Et ce sens qu'on trouve, qu'on appelle aussi la cohérence, ça aide à surmonter les coups durs.
Si le processus de séparation a duré si longtemps, c'est vraiment parce que j'ai d'abord nourri l'espoir qu'il revienne. Je lui ai écrit des lettres dans lesquelles je lui disais qu'en fait, la porte était toujours ouverte.
Pendant l'année qui a suivi cette séparation, c'était les larmes. Les larmes de Marichou, il y en a eu beaucoup. La seule chose qu'on puisse faire dans ces cas-là, quand quelqu'un souffre, c'est vraiment d'être à ses côtés et de l'écouter.
Le processus de séparation varie d'un individu à l'autre. Il dépend souvent de notre passé, des expériences d'attachement qu'on a faites et du degré de confiance qui existait dans nos relations avec nos parents ou nos amis dès l'enfance.
Ma propre mère était vraiment dans le coûte que coûte. C'est-à-dire, je dois tout supporter. Je peux tout supporter parce que ce qui compte, par-dessus tout, c'est de préserver la famille, de garder la famille. Donc pour ça, je suis prête à tout. Et pour moi, ça, c'est quelque chose, je pense, où je me suis un peu lancée dans ces pas, dans cette relation-là. Pour moi, terminer complètement cette histoire, c'était aussi faire le deuil de la famille. C'était de me dire, en gros, j'ai pas réussi à garder mon mari, j'ai pas réussi la famille.
Je pense que la capacité à pouvoir se détacher de l'autre, à être seule, elle va aussi avec l'image qu'on a de soi-même et la confiance qu'on peut avoir en soi si on pense qu'on ne peut pas exister sans l'autre. Ça va rendre la séparation très difficile, parce que notre existence ne peut être là que si l'on est avec l'autre.
Et c'est vrai que cette relation, elle est aussi pour moi symbolisée par des objets, notamment l'alliance, l'alliance de mariage. Je me souviens que je ne voulais pas l'enlever, j'y arrivais pas. Il continuait à avoir du pouvoir sur moi par l'absence. Donc j'ai quand même, on va dire, traversé comme ça de 2009 à 2018, donc 9 ans. Ce qui était complètement aussi dingue, et ça c'était quelque chose que je pouvais ressentir physiquement, C'est le fait d'avoir peur de le croiser, d'avoir peur de tomber sur lui. Je me dis qu'il était dysfonctionnel dans la relation. Parce qu'on ne peut pas avoir peur comme ça de tomber sur quelqu'un, on ne peut pas avoir peur de le croiser.
Un jour, il m'a demandé s'il pouvait m'envoyer une lettre. Et on a commencé à s'écrire régulièrement. Dans ces lettres, on est revenus tous les deux sur notre histoire. Je crois qu'on avait du mal à comprendre ce qui s'était vraiment passé. On ne s'intéressait plus l'un à l'autre. On ne s'écoutait plus vraiment. Puis on a cherché un autre niveau d'échange possible. Au début, c'était difficile de se débarrasser des restes de relations amoureuses dans nos échanges, de les éradiquer complètement. L'amitié est venue de manière imperceptible, comme la rupture. Petit à petit, avec chaque échange, on a trouvé un nouveau cadre. Je pense qu'on peut rester amis après une séparation. Mais il faut se débarrasser de la relation qu'on avait avant.
La séparation reste un processus très individuel, qui ne se déroule pas selon un schéma identique chez tout le monde. Aucun de nous ne souhaite perdre une personne aimée. Néanmoins, ça fait partie de la vie, et il faut laisser du temps au processus de séparation. L'expérience montre que ceux qui se donnent le temps de vivre ce processus parviennent généralement mieux à nouer une relation stable par la suite.
Je pense que dans certains cas, la séparation peut effectivement être une chance. De manière générale, on apprend de tout événement de vie difficile. Une séparation peut aussi nous permettre de nous connaître et de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus pour sa vie future.
J'ai appris que même si une séparation est très douloureuse, c'est parfois la bonne chose à faire. Ça permet d'évoluer, de changer des choses pour aller dans la direction qui nous paraît la bonne.
Voilà encore un extrait fort intéressant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette capsule qui sont intéressantes à connaître, qu'on ne sait pas forcément, et notamment qu'au niveau de la chimie du cerveau, la dopamine, la sérotonine et bien d'autres choses encore sont mises en activité pendant une période de séparation, et qu'il y a des choses qui se jouent au niveau du cerveau et qui viennent plus ou moins nous faciliter ce processus. Donc c'est quand même intéressant. C'est pas juste le mental, enfin dans le sens je me sépare de la personne et puis voilà. Non, la tristesse, la nostalgie nous font il y a certaines hormones qui se déclenchent dans le corps et qui font que c'est plus ou moins facile de passer cette étape en fonction, toujours pareil, de qui on est, de ce qu'on a vécu et de comment notre cerveau est habitué à réagir à ce genre de situation. Et l'enjeu, effectivement, ils le disent à un moment, c'est pour pouvoir sortir grandi et puis finalement un petit peu plus rapidement de cette situation justement de tristesse et de nostalgie, c'est de pouvoir mettre du sens sur ce qu'on vit et sur ce qu'on a vécu. Et d'être dans ce cheminement, ce questionnement de pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je garderai et qu'est-ce que je referai différemment. Et ça permet de traverser la séparation d'une manière beaucoup plus saine et proactive, et pas être trop dans la victimisation. Voilà. Alors là, on va terminer sur une dernière petite capsule avec une personne que j'adore, que vous connaissez, dont j'ai déjà beaucoup parlé, qui s'appelle Guy Corneau. C'est une petite capsule de 5 minutes. Hein, donc c'est vraiment, on va terminer l'émission là-dessus, qui s'appelle Leçon d'amour. Donc, c'est toujours pareil, des paroles d'une grande sagesse qu'il pose sur la relation amoureuse. Et puis, bah, écoutez, je vous dis, prenez bien soin de vous. Et puis, simplement, à la semaine prochaine. Et terminez bien l'émission avec ce formidable Guy Corneau.
Donc, ce que j'essayais de vous dire pendant cette conférence, c'était qu'au fond, il n'y a pas de choix amoureux. Les choix sont profondément conditionnés, déterminés par ce qu'on porte en soi de désirs et de complexes inconscients. Et que l'histoire de l'amour, c'est au fond l'histoire de la prise de conscience de tout ce qu'on porte, autant le bon que le mauvais, ou ce qu'on appelle l'ombre, autant que ce qui permet l'amour que ce qui lui fait obstacle profondément. Et pour moi, le choix amoureux, c'est quelque chose qui devient possible vraiment avec la connaissance de soi, avec la connaissance de ce qu'on porte vraiment de désirs, de besoins, de difficultés, d'obstacles intérieurs. Et que cette volonté de revenir sur soi, d'utiliser les situations amoureuses dans ce sens-là, à deux, va permettre tranquillement qu'il y ait de véritables choix amoureux qui se posent. Et à partir de là, une véritable expérience créatrice d'union, de communion à travers l'amour. Bien sûr, dans l'amour, on est toujours de toute façon dans une communion et dans une union, de toute façon. Parce que c'est toujours cette chose-là qui nous cherche. Je pense que l'amour nous cherche profondément, sans cesse, que c'est une chose en nous qui nous attend tout le temps, sans se fatiguer. Cette chose-là nous attend et est toujours prête à se proposer pour peu qu'on lui ouvre la porte intérieure. Et je pense qu'on peut attendre l'amour de l'extérieur et je pense qu'on peut aussi l'attendre de l'intérieur, c'est-à-dire aller le stimuler en soi, l'activer en soi, en acceptant justement de lever les voiles, de travailler sur des complexes à travers toutes sortes de moyens. Vous savez, on a la chance de vivre dans un milieu actuellement qui propose toutes sortes de choses au niveau du corps, au niveau de la spiritualité, du travail énergétique, de la psychologie, de toutes les formes de psychothérapie possibles qui nous permettent d'ouvrir nos nœuds, de défaire nos nœuds. Ce n'est pas de... Pour moi, toutes ces entreprises sont extrêmement importantes. Les réseaux d'entraide comme le Réseau Hommes Québec, Réseau Femmes Québec, peu importe votre porte d'entrée, c'est bon. Ça vous permet d'aller... N'importe quel travail qui permet d'aller défaire des nœuds est quelque chose qui vous rend encore plus disponible à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est vraiment ce monde-là de l'amour. Je pense que chacun de nous est appelé à vibrer profondément de joie et d'amour dans la vie. Il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Les seules raisons que ce soit autrement sont en nous. Ce sont les obstacles qu'on pose à ça. Et dans ce sens-là, vous comme moi, on est tous sur la même route. On est tous des chercheurs d'amour au fond. Hein, on est tous là pour permettre qu'un petit peu d'amour, ou peut-être beaucoup, finisse par passer à travers nos vies. Et je me rappelle les mots d'une femme avec qui je travaille de temps en temps, qui s'appelle Christiane Singer, j'espère qu'un jour elle aura l'occasion d'être à Montréal, qui disait, au fond, la question à se poser à la fin d'une vie, c'est combien d'amour est-ce que j'ai été capable de laisser passer, de laisser filtrer? Combien d'amour est-ce que j'ai été capable vraiment de recevoir, de permettre? Est-ce que je me suis permis vraiment de connaître le monde de l'amour, de vibrer d'amour? Et je pense que c'est ça la question essentielle et au fond, la seule question. Et la seule chose qui puisse vraiment nous satisfaire, c'est cette vibration-là. Et c'est sûr que tous nos mouvements de haine, de répulsion, de colère, de vengeance, c'est encore de l'amour qui cherche, parce que ces mouvements-là vont nous révéler ce qui fait obstacle, si on accepte de le voir. Chaque émotion nous pointe la direction d'une difficulté. Vous savez, si nos partenaires n'étaient pas là pour nous révéler ces choses-là, on resterait seul et démuni par rapport à tout ça. Mais nos partenaires sont là pour nous heurter, nous provoquer, nous caresser, nous permettre vraiment. Ce sont des aides inestimables pour rentrer dans le monde de l'amour, peu importe ce qu'ils sont. Ils sont là pour, par les heures, par la bonté, sont là pour nous permettre d'accéder à nous-mêmes et à ce nous-mêmes qui est l'amour. Et vous savez, dans l'amour, on est tous réunis. C'est la même chose pour tout le monde. On est tous ce grand mouvement fondamental d'union, de communion avec l'univers. Enfin, c'est ma conviction extrêmement profonde, c'est la conviction qui anime ma vie, qui anime mon travail de thérapeute. Et j'espère qu'elle puisse devenir la vôtre, j'espère que j'ai pu vous inspirer à aller vers cette découverte de l'amour, même s'il est difficile. Je pense que, je ne sais plus quel poète français a dit, au fond, il n'y a pas d'amour malheureux, il n'y a que des amours heureux. Pourquoi? Parce que tous les amours vont nous éclaircir, nous éclairer par rapport à ce qui en nous fait obstacle à l'amour véritable. Je dirais pour terminer cette conférence, après ça on va avoir une période de questions, vous pourrez venir me parler de votre exercice et des difficultés que vous avez rencontrées, ou poser d'autres questions. Je dirais qu'il y a une seule réalité, c'est l'amour, et que c'est très pratique d'être deux pour le découvrir.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre.
La descente du nord, j'avais ventre aux zombies, là les peines de